Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nos nouvelles aventures radiophoniques. Nous avons ressorti le studio mobile, mangé le bitume avec ses roulettes et nous sommes arrivés à Verneuil-sur-Avre, dit-on, à l'occasion de la 12e édition du Salon du Livre. Aujourd'hui, nous sommes installés à l'espace Saint-Laurent. D'ailleurs, c'est un très très bel espace qui se prête très clairement à un Salon du Livre où nous rencontrerons, discuterons, échangerons, papoterons avec des auteurs, des autrices, des illustrateurs également. En fait, vous l'aurez compris, c'est la fête du livre. Venez nous rejoindre à l'espace Saint-Laurent à Verneuil-sur-Avre, dit-on, bien entendu. Pour radiopropulser cette émission jusqu'à vos oreilles, c'est donc l'ami Damien qui s'y collera, accompagné de l'ami Vinci. Et durant cette émission, nous aurons l'occasion d'échanger, de discuter avec Sophie Bazin, Anouk Schutterberg et puis Laure Irlin. Mais tout de suite pour ouvrir, eh bien, c'est la patronne que nous recevons à nos micros, la présidente de l'association porteuse de ce projet qui est Lire à Verneuil. Bonjour Martine.
Bonjour.
Comment allez-vous aujourd'hui Martine? Là, ça y est, les portes sont ouvertes au public.
Les portes sont ouvertes au public et ça a l'air de bien fonctionner. On a déjà beaucoup de monde.
C'est plutôt une très bonne nouvelle, effectivement. Nous sommes donc dans l'espace Saint-Laurent, un nouvel espace qui vous est proposé pour ce Salon du Livre qui, historiquement, se faisait quand même sur la salle des fêtes. Mais là, on est sur l'espace Saint-Laurent. Moi, je préfère. Hein. Là, on est à côté de la forge. On est bien installé, en fait. Hein.
Oui, c'est un très bel endroit. Effectivement, c'est beaucoup plus agréable que la salle des fêtes. C'est un édifice assez ancien et qui a été entièrement rénové, qui est absolument magnifique. Un petit peu frais peut-être, mais ça va.
Non, mais ça va. Nous, on a le chauffage qui nous s'ouvre juste en face de nous, tout va bien. Hein. Un truc qui nous a attiré le regard avec les collègues, on s'est dit, c'est un salon sur lequel il y a beaucoup d'autrices, de femmes qui sont présentes sur tous les stands là, qui proposent des romans. Bien souvent, j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes qu'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que ça fait partie des choix éditoriaux de l'association? Est-ce que c'est par hasard? Ou est-ce que d'un seul coup l'univers du livre finalement a une représentation plus importante des femmes?
Alors en fait, effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui écrivent, qui prennent de la place. Alors c'est pas un choix délibéré hein, de l'association. Notre choix se fait essentiellement par la qualité. Donc il y a un comité de lecture qui choisit les livres, on nous envoie les livres, il y a un comité de lecture et on sélectionne selon la qualité et bien évidemment la thématique annuelle. Donc là, effectivement.
Cette année, c'est le polar.
Et donc, cette année, c'est le polar et le thriller. Donc, effectivement, là, cette année, on a beaucoup de femmes, de jeunes femmes et des premiers romans qui viennent avec des premiers romans. Donc, ça, c'est très, très bien. Donc, on est ravis d'avoir beaucoup de femmes au salon. C'est toujours un plaisir.
Aujourd'hui, donc, de 10h à 20h, n'importe comment, 18h30. Oh, non, monsieur, je ne m'en vais plus. Hein. Moi, c'est une fois que je suis là, je m'installe. Hein. Donc, de 10h à 18h30, tout le monde peut venir en famille. Parce qu'en fait, il y a aussi pour les grands et les petits, en fait. On a vu notamment qu'il y avait de la BD qui était présente. Alors, je ne dis pas que la BD est réservée aux enfants, hein, bien entendu, parce que la BD, c'est aussi pour les adultes. Et il y a de la BD et des auteurs de manga, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans le roman.
Ah non, pas du tout. C'est un salon généraliste. Hein. Donc, il y a du manga, il y a de la bande dessinée, il y a aussi du roman, il y a de l'histoire, enfin, il y a aussi des livres d'art. Donc, c'est un salon généraliste et on essaye d'avoir un peu pour tous les âges pour attirer le plus grand public possible. Et justement, comme tu disais, de venir en famille. Donc, il y a aussi des jeux qui sont organisés par la médiathèque et l'association Lire et Faire Lire pour les petits à partir de 2 ans. Vous voyez, c'est très large hein, comme public. Hein.
Voilà, j'allais y venir justement. Il y a les partenaires qui proposent aussi des animations plus directes. Et puis, il y aura un prix. Il y a le prix même qui sera remis dans l'après-midi. C'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, 16h30.
En quelques mots, quel est ce prix? prix
Alors, c'est le prix de la biographie Geneviève Moll. Donc, Geneviève Moll était rédactrice en chef à France 2 et biographe. Et quand elle est décédée, c'était après le salon. Et quand elle est décédée, ses amis et moi-même avons décidé de créer un prix en son hommage. Et donc, ce sera la 9e édition cette année. Et donc, il sera décerné à Laurie Lerin à 16h30 tout à l'heure pour un livre absolument remarquable qui s'appelle « À la recherche de Céleste Albaré ».
Alors, Céleste Albaré, c'est une enquête autour de Marcel Proust, en fait. C'était une amie, c'est devenu une amie. C'était une servante à l'origine,
alors,
c'est ça,
c'est une jeune fille qui est montée de sa Lozère natale, qui est arrivée donc à Paris, qui a cherché du travail et qui est tombée chez Marcel Proust. Et il s'est lié entre eux une amitié, une connivence, une complicité. Elle l'a accompagné jusqu'à son décès, elle était près de lui quand il est décédé. Et ce qui est un petit peu triste dans cette histoire, c'est que en fait, elle n'était qu'une servante. Donc, quand Marcel Proust est décédé, elle n'avait plus aucune place nulle part, ni dans la famille, ni auprès des proches de Marcel Proust. Et à l'enterrement de Marcel, elle s'est retrouvée presque exclue, en fait, alors que c'était vraiment une amie très très proche de Marcel Proust. Elle a beaucoup inspiré Marcel Proust dans ses écrits.
On aura un micro aux alentours de 11h40, 11h45, d'échanger exactement. Mais voilà, c'était histoire d'avoir la lauréate de ce prix qui sera décerné aujourd'hui sur le salon du livre. On n'a plus qu'à visiter les stands, c'est ça?
Oui,
il n'y a plus qu'à arriver. Petit détail quand même hyper important, surtout dans ces temps. On accepte comment sur ce salon du livre? Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour accéder à ce salon du livre?
Oui, alors c'est passe sanitaire obligatoire. Dans les locaux, le masque n'est pas obligatoire. Je me suis renseignée à la préfecture, donc tout est calé. C'est pas sanitaire ou le test
antigénique. C'est un pass.
Mais ça, c'est obligatoire pour rentrer, absolument.
Voilà. Très bien. Donc, c'est bon de le dire avant. Hein.
Oui. Juste rajouter un petit mot, il y a aussi à découvrir deux expositions, trois artistes qui sont donc sur les murs de Saint-Laurent et qu'il faut absolument venir découvrir. C'est une exposition sur Verneuil.
Très bien. Eh bien, nous en avons pris bonne note, Martine. Merci beaucoup à vous de nous avoir accordé ces quelques minutes. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, Martine passe son temps à courir d'un point à un autre sur le salon. Bah ouais, c'est elle la patronne. Donc, c'était un vrai plaisir d'échanger au micro avec elle sur ce début d'émission. On se fait une très courte pause musicale, le temps d'accueillir avec nous Sophie Bazin afin d'échanger avec elle. I'm going to go to the next one. On vient d'écouter audiobook avec The English Manipulator. Toujours et en direct du Salon du Livre de Verneuil-sur-Avre, amis auditeurs, auditrices. Et donc, on fait le tour un petit peu des auteurs, illustrateurs qui sont présents sur ce site en ce dimanche 24, déjà, hein, je crois, octobre de l'an 2021. Et vous avez entendu JC ouvrir le bal avec la responsable, la coordinatrice, la chef d'accueil, parce que vous me disiez vous-même, Sophie Bazin, bonjour à vous, que vous êtes chouchoutée hein, depuis que vous êtes arrivée.
Ah oui, oui, on a un super accueil. Le lieu est magnifique, les gens sont adorables, il y a du soleil, c'est le bonheur.
Eh bien tiens, parlons de soleil, Sophie. Très intéressée par votre travail, très riche en couleurs. Vous êtes illustratrice, mais en fait, pas vraiment que. J'ai l'impression qu'aussi, derrière, il y a tout un travail de dessin, de peut-être manipulation, de peut-être origami, que sais-je, de pâte à modeler. J'ai l'impression que déjà, sur votre stand, il y a des dizaines et des dizaines d'ouvrages. Expliquez-moi tout, Sophie, là.
Alors, donc je dirige la maison d'édition d'Odovol, qui a été créée au départ par une association d'artistes de l'océan Indien, avec l'idée de promouvoir notre travail de peinture par des livres pour enfants. Donc, la première collection qu'on a faite, la particularité, c'est qu'on part de la peinture d'un artiste et on cherche un auteur pour mettre un texte dessus, pour faire un livre pour enfants tout carton. Donc, cette collection tout carton, elle a une trentaine de titres maintenant. Certains sont en créole réunionnais, certains sont en bilingue français malgache, la plupart sont en français. Et donc, à chaque fois, ça a été montrer, permettre en fait à un artiste de l'océan Indien d'exporter son travail, de montrer son travail grâce aux livres pour enfants, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les catalogues restaient souvent dans le fond des tiroirs, alors que les livres de nos enfants, quand ils étaient petits, ils étaient très souvent exposés dans le salon. On avait un temps d'exposition à l'image qui était beaucoup plus long. Et donc, ça nous a paru intéressant d'imaginer comme ça le livre d'enfants pour à la fois faire rentrer les enfants dans la peinture dès le plus jeune âge et aussi permettre aux parents de découvrir des artistes qu'ils ne connaissaient pas. Donc ça, c'est la première collection. Et puis ensuite, on a déménagé, on a habité à Madagascar, et là, on s'est rendu compte qu'en fait, dans les bibliothèques malgaches, il n'y avait que des livres en français, puisque c'était acheminé, offert par la francophonie, alors que les enfants étaient malgachophones. Donc quand vous avez plein de beaux livres et que le texte vous reste hermétique parce que vous ne maîtrisez pas la langue, ça ne construit pas forcément une bonne représentation de son identité pour un enfant malgachophone. Et on s'est dit, bon, comment faire des livres pour les enfants malgaches, en sachant qu'il n'y a pas de marché du livre, les parents sont très pauvres. Hein. Madagascar vient d'être classé comme le pays le plus pauvre au monde, donc voilà, la priorité n'est pas du tout d'acheter des livres pour les parents, et du coup le marché est vraiment très petit. Alors, pour y arriver, on a eu l'idée de jumeler en fait des écoles de Madagascar et des écoles de France, dans des projets interculturels de découverte, et en fait on a monté une collection, un projet qui s'appelle le projet du dodo bonimenteur, où le principe c'est que des enfants, par exemple de Normandie illustrait un conte normand, des enfants de Madagascar illustrent un conte malgache. Les deux contes sont traduits dans les deux langues, donc publiés en bilingue, et tous les enfants participants reçoivent les deux albums. Ça permet ainsi aux enfants malgaches de valoriser leur propre culture et aussi de s'ouvrir à une culture autre. Alors dans cette collection, en fait, on a mis pas mal de temps à convaincre les gens de nous suivre sur ce projet, et puis une fois que les premiers livres sont sortis, tout le monde a bien compris l'intérêt de la chose. Et là, on a une trentaine de titres en français malgache actuellement. On a publié beaucoup de contes normands, donc en français malgache aussi. Et puis là, on a ouvert cette collection maintenant aux langues nationales africaines. Donc l'an dernier, on a publié un titre en français sérère, illustré à Joël Fayout, et un autre en français wolof, illustré à Saint-Louis du Sénégal. Parce qu'il y a le même besoin, en fait, avec les langues nationales africaines. Vous avez des enfants qui parlent une langue à la maison qu'ils ne retrouvent jamais à l'écrit. Et ça, pour se construire, c'est pas bon, quoi. Il faut arriver à une une construction équilibrée. C'est pas qu'on va contre le français, c'est qu'on pense que les deux langues peuvent se développer simultanément dans l'esprit d'un enfant de manière équilibrée, sans qu'il y en ait une qui soit la bien outillée, la belle, l'inaccessible, et puis l'autre, ben, celle qu'on parle à la maison, qui est minorée. Donc on essaye de rééquilibrer les choses en faisant des éditions bilingues, et on appelle ça l'édition solidaire. Le fait que quand vous achetez, vous, un livre bilingue, même ici en France, vous permettez du coup à un enfant du Sud de lire un livre dans sa langue. Donc c'est très intéressant, et alors ça rend les parents parfois un peu perplexes, mais les enfants, nous, on voit bien sur les salons qu'ils sont très intéressés par ça, parce qu'ils vont essayer de s'intéresser à l'autre code. Ils n'ont pas un objectif d'apprentissage, ils ne vont pas se mettre à apprendre le Wolof ou le Malgache, mais le fait de rentrer dans un code justement où ils n'ont aucune exigence, mais où ils peuvent se balader librement en toute curiosité, ça participe de l'éveil aux langues, ça participe de la prise de conscience de son code linguistique, et en fait c'est très bien aussi pour les enfants français.
N'est-ce pas là le souhait de chacun que d'essayer de susciter, provoquer, semer des graines auprès de nos pitchouns et de leur offrir des paillettes dans les yeux et en même temps essayer de vivre de sa passion? C'est venu comment ça, Sophie Bazin, cette envie de ces belles idées déjà, ces nobles idées, elles sont liées à votre éducation, à votre histoire, vous, de jeune enfant qui a voyagé. Comment aujourd'hui on se retrouve à la tête d'une telle démarche et entreprise, j'ai envie de dire, avec le sens noble du terme?
En fait, ça s'est fait très très naturellement. Moi, je suis plasticienne, mais je suis plutôt peintre au départ. Hein. Et en fait, l'espace de l'atelier, c'est quand même un espace très solitaire. Et au bout d'un moment, on produit plus qu'on ne vend et on se retrouve à être un petit peu asphyxié par la chose produite. Quand j'ai commencé à développer cette collection de livres d'art pour les tout-petits, je me suis rendu compte que ça a comblé quelque chose qui me manquait, en fait, un travail d'équipe, le fait de mettre les gens en relation. Et puis aussi, le métier d'éditeur, il faut être vraiment polyvalent, puisqu'on va faire aussi bien de la gestion, la recherche de financement pour les projets, que des maquettes, une vision esthétique qui est très importante, les relations personnelles avec les auteurs aussi. Enfin, c'est un métier à multiples facettes, et le fait de développer petit à petit la collection de livres d'art, je pense que c'était tout à fait complémentaire avec mon activité plasticienne qui était plutôt une activité solitaire, quoi. Et puis après, ben, quand vous arrivez à Madagascar et que vous vivez dans ce pays, vous voyez les besoins, tout est à faire, tout est urgent, et on ne peut pas rester les bras croisés. Et on se dit, bon, qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter comme pierre à l'édifice? Bien sûr, c'est modeste, hein, ça ne va pas résoudre la situation de famine qui sévit actuellement dans le Sud, mais on se dit, ben, si moi je ne le fais pas, de toute façon, personne ne le fera, parce que ces livres-là sont difficiles à faire, c'est un défi de les faire. Donc voilà, on y va en se disant, ben, c'est toujours une goutte d'eau, certes, mais c'est ce que je peux faire et c'est ce que j'ai envie de faire, quoi, aussi.
C'est tout à votre honneur, Sophie Bazin, bravo, on boit vos paroles, tout simplement.
Bon, et je veux dire que c'est pas juste non plus à sens unique, c'est-à-dire c'est pas du don, hein. Je reçois énormément dans les ateliers que je dirige avec, pour l'illustration des livres avec les enfants, je reçois vraiment énormément des enfants, mais aussi de leur famille, hein, puisque c'est un projet humain, c'est-à-dire qu'à chaque fois, dans chaque école où j'interviens, je suis accueillie en famille, même ici en France, hein, ça surprend beaucoup les instituteurs, je leur dis, moi je vais pas en chambre d'hôte, je dors chez vous, même si votre canapé est pourri, je m'en fiche, je veux qu'on prenne le petit déjeuner le matin ensemble, voilà, parce que c'est vraiment un projet interculturel, et je suis le lien entre les écoles qui sont appareillées, et en fait, s'il n'y a pas cette dimension humaine, le projet perd tout son sens, quoi.
Sophie, vous êtes première témoin aussi du foisonnement de la richesse de cette zone de la planète qui est l'océan Indien, où beaucoup de terres ont été partagées. Si on prend l'exemple de la Réunion, qui est l'île des différents peuples, l'île Bourbon, c'est vous en êtes témoin de toute cette incroyable richesse. Moi, je le sais un tout petit peu, mais vous qui fréquentez l'océan Indien, qui voyagez, qui vous rendez sur site, comment vous pourriez le qualifier? Est-ce qu'on arrive à le qualifier? Il y a tant de choses, il me semble, il y a tant de métissage, de partage de culture, que en fait, ça nourrit systématiquement le travail des uns et des autres. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire?
Oui, alors, en fait, on est un archipel, hein, parce que cette région, l'océan Indien, donc, la partie dont je parle, moi, c'est plutôt le sud-ouest, donc Madagascar, Maurice, les Comores, la Réunion, les Seychelles, voilà. Ce sont des îles, donc ce sont d'abord des cultures insulaires et des cultures insulaires qui sont très différentes. Hein, entre voilà, l'île Maurice et la Réunion, il y a déjà pas mal de différences, mais entre la Réunion et Madagascar, il y en a encore plus. Alors, c'est vrai qu'il y a, il y a un appétit, enfin, il y a des choses qui nous lient, hein, déjà d'un point de vue culturel, historique, mais aussi aujourd'hui culinaire. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui nous lient. Il y a aussi beaucoup de choses qui nous séparent, notamment l'économique, voilà, le politique, enfin, le fait que certaines îles comme la Réunion qui sont développées, qui sont un petit bout d'Europe, en fait, c'est un petit peu un caillou par rapport au reste de l'environnement qui est très, très différent économiquement. Mais c'est aussi culturellement un terreau commun. Et c'est pour ça qu'on a créé depuis 4 ans une grande revue littéraire qui s'appelle Lettres de Lémurie. La Lémurie, ce serait un continent, une sorte d'Atlantide, un continent englouti dont Madagascar représenterait juste la partie émergée. C'est d'abord un continent littéraire, même si apparemment il y a des bases, enfin il y a des recherches récentes tendent à prouver que la Lémurie aurait réellement existé. Mais c'est d'abord un continent littéraire qui a été exploré par des Mauriciens comme Malcolm de Chazal, Jules Bénard à La Réunion, Ziema à Madagascar. Enfin, c'est une sorte de continent qui serait ce terreau commun. Et donc, on a créé cette revue pour justement permettre aux auteurs de cette zone géographique de se faire connaître et de se reconnaître entre eux aussi. Donc, la particularité, c'est que tous les textes sont au moins traduits en français, mais quand le texte à l'origine est en malgache, la version malgache est publiée aussi. Voilà, c'est une revue plurilingue. Il y a un numéro par an et ça nous aide à créer des ponts entre nous parce que c'est pas si facile. En fait, la mer est aussi un obstacle pour se rencontrer, tout simplement. Hein. Là, on l'a bien vécu parce qu'avec l'arrêt des liaisons aériennes, par exemple, eh bien, on sait heureusement qu'il y avait encore Internet et qu'on a pu communiquer.
Vous étiez sur place à l'époque?
Non. Moi, j'ai été bloquée au Sénégal. J'étais en train de faire le projet français Wolof. Là, mais quand je suis revenue, j'ai mesuré combien c'était difficile d'arriver tout simplement à se voir, à distribuer les livres, à avoir des temps d'échange communs. Parce qu'effectivement, là, il n'y avait plus que le Zoom et le distanciel le possible.
Sophie, comment on peut vous suivre l'actualité de votre maison d'édition? Et on dirait qu'il y en a même plusieurs, hein, parce que Dodo Vol, c'est le nom de la maison.
Dodo Vol, oui, voilà. Dodo Vol.
C'est la vôtre, mais après on a entendu qu'il y avait aussi des projets adjacents.
Oui, bah, la maison d'édition fait plein de choses. Enfin, voilà, on soutient les auteurs de la région et puis les auteurs nous soutiennent aussi. Hein, bien
donc dodovol.com?
Dodovol.blogspot.com. Voilà, c'est notre blog et c'est nous. On est tout petit, hein, on est une toute petite équipe. Ouais, donc quand vous écrivez sur Dodo Vol, c'est directement sur le.
Excusez-moi, je suis entouré d'auteurs et de poètes, mais j'ai envie de dire que vous êtes peut-être tout petit, mais vous avez un énorme cœur. Merci beaucoup, Sophie Bazin. Je peux vous dire, mes auditeurs, auditrices, elles transpirent la question. Et rien à rajouter. Merci beaucoup, Sophie, de nous avoir accordé du temps et nous avoir un petit peu éclairé sur votre travail multiple et si riche et si coloré.
Merci à vous. Et surtout, merci au salon de nous accueillir. Ça fait vraiment, vraiment du bien de revoir du public en vrai.
Eh bien, tant mieux. Merci. Vinci, je te propose une petite pause musicale et puis on va continuer à faire le tour des auteurs et illustrateurs, hein, sur ce salon du livre de Bernay-sur-Avre. I'll
Balthazar avec le titre I'll Stay Here. Vous êtes toujours en direct en live et en public du Salon du Livre de Verneuil-sur-Avre, Editon. Et comme je le disais, nous sommes en direct en live et en public du Salon du Livre de Verneuil-sur-Avre, Editon. Nous rencontrons les auteurs, les autrices, les illustrateurs aussi que nous aurons à nos micros. Nous avons eu Martine, la présidente de l'association Lire à Verneuil, qui porte ce festival en début d'émission. Et nous recevons maintenant Anouk Schutterberg. Bonjour à vous, Anouk. Alors, vous venez aujourd'hui avec un premier roman, Jeu de peau. On est dans l'univers de l'art moderne.
Oui, et, beaucoup.
Et du tatouage également, comme le dit le titre. C'est un polar thriller. Il y aura une enquête encore, je vais pas trop en dire. Hein, mais,
non,
on peut pas, on peut pas trop en dire. Il y aura une enquête, il y aura un crime sans corps, il y aura tout un univers assez particulier. En quelques mots, comment est arrivé ce premier roman sous votre main, Anouk ?
En fait, c'est un scénario que j'avais en tête depuis très longtemps et que j'ai pu mettre effectivement sur papier l'année dernière, puisque voilà, j'ai eu une fenêtre de tir personnelle qui m'a permis de me consacrer à l'écriture. Et voilà, donc j'avais cette idée effectivement de mettre en scène un jeune peintre extrêmement doué qui, à un moment donné, souhaite délaisser ses pinceaux et s'initier à l'art du tatouage.
Ce qui est souvent d'ailleurs le cas dans le tatouage, généralement ce sont des artistes qui ont déjà œuvré en amont
oui,
sur le graphisme et puis qui arrivent au tatouage.
Oui, enfin, pas toujours, parce qu'en fait c'est un peu la question que je me suis souvent posée. Pour moi, le tatouage peut être véritablement une œuvre d'art, et je me suis souvent posé la question pourquoi de grands peintres finalement n'avaient jamais ou peu en tout cas pratiqué ce type d'art sur la peau. Donc voilà, je suis partie sur cette idée de ce peintre qui va à un moment donné partir sur l'île d'Hokkaido, puisque voilà, il va s'initier auprès d'un grand maître japonais. Donc il y a tout un passage dans le livre où on est sur l'île d'Hokkaido avec cette ambiance, et donc pendant 2 ans il y reste pour apprendre
une technique d'ailleurs de tatouage qui est assez spécifique, qui est une technique ancestrale.
Exactement.
Alors vous avez les mots mieux que moi, mais c'est en fait une espèce de bâtonnet sur lequel
ça s'appelle l'irezumi.
L'irezumi.
En fait, l'irezumi se pratique à base de tebori. Tebori, c'est une sorte de petit bâton sur lequel sont fixées des aiguilles. Et en fait, c'est un tatouage manuel. Pourquoi Yerezumi ? Parce que ce tatouage permet justement d'avoir des contrastes, des couleurs et véritablement de pouvoir faire des œuvres d'art sur peau, beaucoup plus que le tatouage que l'on connaît qui est plus classique en fait.
Et un électrique, j'ai envie de dire, avec la tatoueuse électrique, quoi.
Voilà, exactement.
On connaît le grand public à cette image souvent, ce que je vous disais juste quand vous installiez avant qu'on ouvre les micros.
Oui.
On a cette image notamment des tatouages yakuza, de cette tradition japonaise où les corps sont intégralement quasiment recouverts de tatouages et puis codifiés spécifiques.
Oui, alors effectivement, le tatouage, même au Japon, dans les bains publics, il n'est pas toujours autorisé. Ça se démocratise tout doucement. Mais en fait, à l'origine, le tatouage était essentiellement pour marquer les criminels. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait été jugé, plus personne ne pouvait ignorer que vous aviez commis un crime, puisqu'il y avait de vrais tatouages. Ensuite, les prostituées se sont fait tatouer. Et puis après, le tatouage est devenu ornemental, un peu plus décoratif. Mais il a toujours gardé cette mauvaise image, entre guillemets, liée effectivement au crime organisé et au yakuza japonais.
Il était codifié, enfin, c'était très codifié. On ne se faisait pas tatouer n'importe quoi, n'importe comment, c'était codifié.
Exactement, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des signes de virilité, par exemple des hommes, des pompiers ou des gens qui faisaient qui avaient un métier un peu à risque. Il y avait des éléments comme le coq, par exemple, qui revenaient beaucoup parce que c'était quelque chose, c'était un signe de virilité. Après, il y avait effectivement d'autres éléments, toujours des animaux et des tirs, etc. Voilà, chacun avait un peu son code professionnel.
Voilà, avec voilà, toute une signification derrière le tatouage. Quand on écrit une histoire dans ce milieu-là, avec des éléments aussi précis que vous l'évoquiez là à l'instant, notamment les techniques japonaises, voilà, ce peintre à l'origine qui part se former durant 2 années donc en Asie, au Japon. Est-ce que vous-même, vous avez fait des recherches ou c'est un milieu dans lequel vous naviguez, un milieu dans lequel vous aviez peut-être des interrogations en amont ?
Alors, ce n'est pas du tout un milieu dans lequel je connaissais. Je dirais que la part de l'écriture, c'est 50%, voire 40% du travail et 60% de recherche. Par exemple, sur l'île d'Hokkaido, je suis déjà allée au Japon, mais l'île d'Hokkaido, je ne connais pas. Donc, il a fallu faire des recherches sur la faune, la flore, le climat, regarder effectivement dans quel village j'allais poser mes actions. Et non, ça demande effectivement énormément de temps de recherche.
J'imagine que c'est tout aussi passionnant. C'est-à-dire que vraiment, quand on fait une enquête, une recherche un peu approfondie, on se passionne pour le lieu, on se passionne pour la technique, on se passionne pour
ce qu'on s'intéresse. Je suis tombée sur des choses extraordinaires. Un médecin qui est à Tokyo a justement parlé de Yakuza, a la plus grande collection de peaux au monde. C'était un médecin qui était dermatologue et qui a longtemps travaillé sur le mélanome. Et il voulait voir si le mélanome évoluait différemment sur une peau tatouée ou pas. Donc, il était parti dans cette idée-là. Et il a notamment beaucoup aidé Yakuza, qui était, qui était sorti de l'organisation et qui avait besoin d'être soutenu. Et qui, en contrepartie, lui ont offert leur peau à leur mort. Et donc, en fait, il avait trouvé une technique pour découper l'intégralité du tatouage sur le corps avec une technique de tannerie très particulière pour ne pas que la peau se perde en hydratation. Enfin bon, il avait développé tout un système. Son fils a pris le relais et c'est un musée qui n'est pas ouvert au public.
J'ai dit en rigolant, il y a un musée maintenant. Ouais.
Non, c'est dans un hôpital, mais en fait c'est une collection effectivement qui n'est pas ouverte au grand public. Donc voilà, c'est ça, au fur et à mesure des recherches, je suis tombée sur des choses assez extraordinaires.
Alors là-dessus vient s'ajouter une couche de polar, une couche thriller, celle qui vient glacer le sang du lecteur à des moments, celle qui vient générer du suspense, et puis là, du coup, un cadre d'enquête et d'ambiance. Sur un premier roman, comment est-ce qu'on trouve ça ? Comment est-ce qu'on trouve cette sensation ? Peut-être qu'il y avait déjà eu des travaux, peut-être non publiés.
publié dont vous étiez l'autrice.
Non, pas du tout. En fait, moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire que c'est comme quand j'ai envie de regarder une série. C'est-à-dire que je commence mon roman en me disant, bon, qu'est-ce que j'ai envie de voir tout de suite à l'écran. Et en fait, j'écris mes chapitres comme si c'était une mini-série. C'est-à-dire que voilà, il y a des épisodes et en fait, je rythme mon roman comme ça. J'écris plus je décris ce que j'ai dans la tête. C'est des images qui me viennent en tête. C'est comme ça que je fonctionne. Alors, j'ai le début, j'ai la fin et puis au milieu, je me laisse parfois un peu porter par l'écriture.
Durant l'écriture, c'est pas comme s'il y avait un plan déjà très clair.
Il y a des auteurs qui travaillent comme ça, qui travaillent chapitre par chapitre, c'est-à-dire qu'avant d'écrire, ils savent ce qu'ils vont mettre dans tel ou tel chapitre. Je ne fais jamais comme ça. J'ai le début, j'ai la fin et ensuite, je me laisse porter.
C'est le chemin ensuite qui va se faire à l'écriture.
Exactement.
Sur alors, vous me disiez tout à l'heure, donc, premier roman sorti en avril dernier, oui. Jeu de peau. Oui. Un deuxième est en préparation. On se renouvelle? Comment est-ce que Anouk qui est partie avec le stylo et puis j'imagine qu'on change d'univers.
Alors, on change d'univers, on va retrouver certains protagonistes, puisque en fait, à la fin.
Ils vont se retrouver d'un roman.
À la fin du roman, dans la dernière ligne, interpelle que l'on soit optimiste ou pessimiste pour la suite des événements. C'est une autre enquête qui n'a rien à voir, mais on va retrouver certains personnages, oui. Et c'est une histoire de cold case, de disparition de jeune fille qui revient à la surface 13 ans plus tard parce qu'il y a des similitudes, il y a un modus operandi qui est le même. Et donc, ce cold case remonte à la surface. Donc voilà. Mais en fait, quand j'ai écrit Jeu de peau, je pensais déjà à une autre histoire. Et en écrivant le deuxième, j'ai déjà en fait...
Oui, une troisième qui arrive.
Oui, une question à nous que j'ai cru prendre à la volée, que c'est presque par accident que vous êtes mis à écrire là il y a un an et demi. Et aujourd'hui, vous allez en fait vous lancer et ça va devenir votre nouvelle profession, parce que j'imagine que vous avez peut-être une activité à côté.
J'écris déjà pour des entreprises, c'est-à-dire que je suis concepteur-rédacteur, donc j'écris sur des choses pas toujours très, très rigolotes. Donc, dans mon métier, si j'écris depuis toujours, là, effectivement, j'avais écrit quelques nouvelles qui avaient été publiées sur le web, mais honnêtement, je ne pensais pas être capable d'écrire un roman, et en fait, je me suis lancée, et ça marche.
Au fur et à mesure du déroulement du premier, qui confirme un petit peu le fait que c'est ça qu'il fallait faire, quoi.
Mais moi, j'adorerais effectivement ne faire que ça. mais pour reparler de Jeu de peau, c'est vrai que il y a des très jolies critiques. J'en suis très 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 heureuse. C'est un roman, c'est quand même c'est un vrai thriller. C'est assez original dans l'enquête, effectivement, de ces peaux qui se retrouvent parfaitement. Découpé, parfaitement tanné et déposé anonymement chez Sotheby's. Et en fait, voilà, le livre commence au moment où ce jeune Giuliano Rizzoni, ce grand peintre, est convoqué à la première des PJ au Bastion à Paris pour s'expliquer, puisque la veille, les 10 peaux tatouées qu'il a fait, les 10 œuvres d'art qu'il a fait sur les dos, se retrouvent et en plus accompagnés avec leur certificat d'authenticité et avec l'autorisation de vendre de leur propriétaire. Donc l'histoire est un peu particulière pour ce flic qui prend l'enquête en route. On voyage beaucoup, on part au Japon, il y a des scènes qui se passent également en Serbie, on va à Los Angeles, on va à Amsterdam, jusqu'en Sardaigne. Donc il y a vraiment des éléments qui sont on voyage beaucoup.
Très bien, merci beaucoup. Anouk Chatterberg, je rappelle, Jeu de peau, édité chez Plon, est disponible aujourd'hui sur ce salon du livre de Verneuil. Ça fait
panique aujourd'hui.
Bien sûr,
c'est ça l'objet. Merci beaucoup, Anouk, d'être passé par nos micros.
Merci.
Vinci, je vous propose une pause musicale, si vous le voulez bien. Hawaï avec le titre Walk. Nous sommes toujours en direct en live et en public de cette 12e édition du Salon du Livre de Verneuil, Dabre et Diton.
Comme une antenne capte une multitude de fréquences, pour écouter la radio, il faut bien sélectionner une fréquence. Ça, c'est le rôle du tuner.
Nous nous excusons de la mauvaise qualité du son dans la cour. Dépendance de nos installations.
Pas mal, Johnny, mais je n'entends pas terrible, hein. Ça grésille.
Et la FM, c'était pourquoi ?
C'est vrai, sans le compte, dans le sud de l'heure, 95.9.
En direct, en live et en public de cette 12e édition du Salon du Livre de Verneuil, Dave et Diton, nous avons la chance de recevoir la lauréate du prix Geneviève Moll, donné par ce fameux Salon du Livre de Verneuil, Dave et Diton, à savoir Laure Hillerin. Bonjour à vous, Laure.
Bonjour.
Alors, vous êtes historienne, journaliste, romancière également. Et ce prix Geneviève Moll vous était attribué pour alors j'allais dire ce roman biographique, mais quand je dis roman biographique, en fait je dis deux choses qui sont totalement différentes.
Oui.
Pour la biographie, en fait appelée à la recherche de Céleste Albaret. Pour la petite histoire, donc Céleste Albaret est une jeune lozérienne Verne qui arrive à Paris, qui devient servante de Marcel Proust, et durant ces années se crée une relation amicale, une relation particulière en fait avec Marcel Proust, qui va ce que vous racontez d'ailleurs dans cette biographie, ce qui est particulier parce que c'est une femme qui est éloignée en fait du milieu de Marcel Proust, le milieu de la littérature, le milieu intellectuel on va dire à l'origine, et remonte de sa Lozère natale qui est clairement un territoire plutôt rural hein, quand même, la Lozère,
complètement rural, oui.
Il y a un choc des cultures, mais de ça naît quand même une histoire d'amitié.
Ah oui, une véritable histoire d'amitié, de fascination mutuelle. Pour revenir sur votre terme de roman biographique, je trouve que la réalité vaut souvent tous les romans, donc je suis absolument contre l'introduction de quel que soit de romanesque dans le roman, parce que la réalité dépasse la fiction, en tout cas en ce qui concerne cette chère Céleste, qui, comme vous dites, a eu un destin vraiment singulier, parce qu'elle était née à la fin du siècle, en 1891, dans une Lozère où on vivait encore comme au XVIIe siècle, quoi. Un territoire complètement rural et qui était...
Et puis éloigné du monde, en fait.
Absolument, pas d'automobile, le train à une certaine distance, pas d'électricité, bien entendu, et les paysans qui travaillent encore quasiment comme ils travaillaient au siècle précédent, et même dans la langue, ils continuaient à employer des tournures de phrases. Et puis, elle épouse un pays, en fait, un voisin, un cousin de cousin, l'Ozérien comme elle, mais qui se trouvait et qui était monté à la capitale depuis longtemps et qui était devenu le chauffeur de taxi attitré de Marcel Proust, dont elle n'avait jamais entendu le nom. Et donc elle l'épouse, elle l'accompagne à Paris et elle se retrouve à Levallois, entre quatre murs. Et alors là, c'est un choc terrible parce qu'elle trouve que Paris pue, c'est laid, il y a du bruit. Elle est totalement perdue.
Et puis, il n'y a plus les repères dans lesquels elle a grandi et en même temps plongée, ce qu'on pourrait appeler, dans le milieu intellectuel de ces années.
Oui, non, pas du tout. Alors, voyant qu'elle déprimait véritablement, son mari lui dit, tiens, on va rendre visite à M. Proust pour le prévenir que je suis revenu et que je pourrai reprendre mon service. Et il l'emmène boulevard Haussmann. Là, elle est reçue par Nicolas Cotin et sa femme, qui était donc le valet de chambre de Marcel Proust. Et elle a une phrase magnifique, elle dit, je faisais présence, mais avec le besoin de m'en aller. Elle était très sauvage, en fait. Voir des nouvelles têtes, c'était un supplice pour elle. Et puis là-dessus arrive Marcel Proust, alors bon, c'est une scène connue qu'elle a racontée plusieurs fois, qui se présente, voilà Marcel Proust décoiffé et en négligé et sans barbe. Il lui tourne autour d'elle, mais ça dure quelques minutes en fait. Ils échangent juste un bonjour, ils parlent un peu avec Odilon et ils s'en vont. Mais pendant ces quelques minutes... Il avait vraiment le don de juger les gens de façon radioscopique, pas de... Et elle a eu une impression aussi, il ne ressemblait à personne de aucun homme qu'elle avait pu connaître, et donc ils se sont fait mutuellement une forte impression, mais pendant quelques minutes. Et puis, à peu, il a proposé à Odilon qu'elle vienne tous les jours apporter à domicile du côté de chez Swann qui venait de sortir, qu'elle porte les paquets à ses amis à qui il les avait dédicacés. C'était pour faire plaisir à Odilon, pour l'éviter de déprimer. Donc elle a commencé à venir tous les jours. Et puis là-dessus, la guerre est arrivée. Odilon a été mobilisé, le valet de chambre de Marcel Proust a été mobilisé, et c'est comme ça qu'elle est rentrée à son service, alors que ça s'est fait tout naturellement. Voilà, ils n'auraient jamais dû se rencontrer en réalité, et ils se sont rencontrés. Et là, c'est une histoire très étonnante, parce que c'était deux êtres très instinctifs, chacun, évidemment, dans un genre complètement différent, parce que Proust, c'était le raffinement extrême, la société littéraire et mondaine parisienne, alors que elle venait de sa campagne, mais en même temps, elle avait gardé un naturel, une fraîcheur, un esprit de répartie qui a absolument enchanté Proust. Donc, on peut dire qu'ils se sont enchantés mutuellement.
C'est-à-dire, c'est sur cette différence, justement, sur ce naturel, peut-être qu'il ne retrouvait pas, peut-être dans son réseau,
oui.
qu'il fréquentait, peut-être qui était peut-être un peu trop, je suis en train de chercher le mot, mais presque faux en fait dans la représentation du milieu intellectuel de cette époque-là.
Oui, oui.
Et puis d'un seul coup, peut-être il a retrouvé quelque chose de plus naturel, de plus direct.
Oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, Proust n'était pas un intellectuel, c'était un homme d'instinct qui cherchait à approfondir dans son roman les souvenirs qu'il avait des instants. Et il était beaucoup plus à l'aise avec des gens comme ses chauffeurs du taxi, ses secrétaires, les serveurs de l'hôtellerie, etc., qu'avec certains gens du monde qui trouvaient un peu faux. Et elle était d'une espèce très particulière parce qu'elle n'avait pas du tout d'esprit domestique, comme elle dit. Elle insiste beaucoup, elle dit je n'étais pas une domestique. Elle est rentrée au service de Proust pour lui rendre service, et puis en même temps parce qu'elle était fascinée par lui, mais elle n'avait aucune... Elle disait ce qu'elle avait à dire quand elle devait dire, et c'était
elle s'était pas positionnée dans une posture silencieuse de servante, mais plutôt dans une posture amicale, de relation directe et humaine.
Oui, mais elle dit toujours chacun à sa place, parce qu'elle était quand même... Elle tient beaucoup au fait que chacun restait à sa place, qu'il était... Mais en réalité, c'était quand même une grande amitié qui a fini par les rapprocher, parce qu'ils sont partis tout au début de la guerre, ils sont partis à Cabourg. C'est d'ailleurs extraordinaire de voir Marcel Proust qui craignait les voyages, l'inconfort, etc., qui s'embarque en plein exode pour Cabourg avec elle. Et à Cabourg, il s'est opéré entre eux un véritable rapprochement. Ils se promenaient un peu sur la digue, etc. Donc elle continuait à le servir, à lui apporter son petit déjeuner, etc. Mais voilà, c'était des rapports plus amicaux, plus détendus. Et puis quand ils sont rentrés à Paris, eh bien, j'ai trouvé que la question ne s'est même pas posée. Elle est restée là, et même quand Odilon est rentré de la guerre, elle est restée il n'était pas question qu'elle le quitte. En fait.
Alors l'histoire, c'est qu'en fait, cette relation amicale intense, tout de même, finalement, n'est peut-être pas reconnue aux yeux du grand public. Ça reste quand même l'ami discrète, l'ami peut-être pas secrète, mais en tout cas l'ami qui n'est pas du milieu.
Oui, alors le grand public la connaît bien depuis déjà 1962, quand elle a témoigné la première fois à l'émission de Roger Stéphane, Marcel Proust, Portrait Souvenir, et puis ensuite quand elle a écrit elle-même ses souvenirs. Mais ses souvenirs, elle les a écrits au bout de 50 ans.
C'est ça.
Elle avait gardé, je dirais, le meilleur de ses souvenirs. D'après elle, c'était une relation idyllique. Jamais Proust n'avait rien à lui reprocher. Jamais il ne se mettait en colère. Elle était absolument parfaite. Elle ne pouvait jamais être prise en défaut. En réalité, quand on croise ce qu'elle raconte et puis ce que Proust raconte dans sa correspondance, par exemple, c'est complètement différent. J'étais quelquefois un peu comme un vieux ménage qui se disputait. Voilà, il lui faisait des reproches. Elle pouvait lui répondre vertement. À plusieurs reprises, elle a tenté de partir parce que c'est épuisant la vie qui lui faisait mener. Mais en même temps, ils étaient trop liés pour qu'elle puisse imaginer le quitter. Mais alors, ce qui était extraordinaire, c'est que quand Proust est mort, elle avait une trentaine d'années, 31 ans, elle avait quand même encore plus de 60 ans à vivre. Et ça a été pour elle. Et ça, c'est ce à quoi personne ne s'est jamais intéressé quand on parlait de Céleste. On a l'impression qu'elle avait vécu 9 ans, quoi. Les 9 ans. Qu'elle n'avait pas vécu avant et qu'elle n'avait pas vécu après. Et moi, j'ai voulu savoir d'où elle venait, parce que Proust lui disait « Vous avez une belle âme, j'aimerais savoir de qui vous la tenez. » Ben, j'ai cherché justement dans les archives de la Lozère, je suis allé au SIAD. Et puis, qu'est-ce qu'elle est devenue après? Parce qu'on savait factuellement qu'elle avait tenu un hôtel, une pension en fait, comment est-ce qu'on appelait ça, un garni, rue des Canettes, et puis qu'ensuite elle avait été gardienne de la maison de Ravel. Mais ça, c'était des faits, il n'y avait pas la chair qu'il y avait derrière. Et la vérité, c'est qu'elle a été, quand Proust est mort, elle s'est retrouvée comme apatride, parce qu'elle était entre deux mondes. Elle n'avait plus rien avec le monde paysan de son enfance, plus rien en commun avec même son mari, les gens de son milieu. Elle avait quand même vécu pendant 8 ans en compagnie d'un génie absolument fascinant, et qui en plus lui racontait, lui parlait énormément. C'est-à-dire que quand il rentrait de soirée et qu'il était content de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait, de la provision qu'il avait rapportée pour son roman, comme elle dit, ben, il lui racontait des tas de choses, puis il lui parlait de sa propre enfance, il la questionnait. C'est quand même extraordinaire. Enfin, jamais personne n'a eu la chance d'avoir une intimité aussi longue et aussi durable avec Marcel Proust, sauf sa mère dans son enfance. Et donc, tout ça a pris fin brutalement. Donc, elle avait perdu peut-être son patron, mais surtout à la fois son père, son Pygmalion et son enfant, parce qu'elle le soignait comme un enfant. Et elle s'est retrouvée entre deux mondes, incapable. Elle écrit d'ailleurs des lettres déchirantes après sa mort en disant je ne peux plus vivre avec des gens normaux, je ne peux plus mener une vie normale, c'est pas possible, je vivrai tout le reste de mes jours dans une tristesse affreuse. Bon, alors, heureusement, elle a eu une fille deux ans plus tard qui l'a aidée aussi. Et puis surtout, elle a continué à vivre dans ses souvenirs. Elle a reconstitué autour d'elle un petit cénacle d'amis de Proust. Au début, ils étaient très peu nombreux, hein, mais elle ne pouvait plus, quasiment plus parler d'autre chose, quoi. Pour sa famille, c'était un peu pénible. Sa fille, son mari, mais son mari, en plus de ça, il disait, mais attends, c'est moi qui l'ai connu le premier. Il y avait une
espèce de... Et puis forcément, j'imagine, une jalousie dans la relation, parce que j'imagine que pour Céleste Albaret, c'était stimulant, en fait. Il y avait une stimulation intellectuelle aussi, oui, dans la relation avec Marcel Proust. On imagine assez facilement que, ben voilà, quand on rencontre quelqu'un de fascinant qui en plus stimule intellectuellement, si son mari n'avait pas stimulation intellectuelle vis-à-vis de sa femme, donc ça peut être compliqué effectivement.
Tout ça. Et il lui disait, qu'est-ce que tu veux, il est mort, c'est pas nos pleurs qui pourront le ressusciter. Bon, bah, c'est vrai, mais évidemment la conversation passe moins le sel, elle était plus dedans, quoi.
Elle était salée, justement. Quand on fait des recherches de type, et vous le disiez à l'instant, voilà, la période avec Marcel Proust, elle est documentée, notamment à travers, oui, les correspondances de Marcel Proust qui ne se perdent pas, parce que ça, voilà, c'est Marcel Proust, alors ses correspondances sont conservées.
Mais
sûrement pas toutes, mais en tout cas, oui, il y a quand même un,
oui,
côté monument, voilà, c'est ça, voilà, oui, il y a de quoi faire. Par contre, effectivement, quand on fait des recherches sur Céleste Albaret, comme vous le disiez, vous avez été en Lozère, chercher dans son village natal, finalement, de l'information sur ce qu'elle fait après aussi, oui, Marcel Proust. Comment ça s'aborde, ces recherches, justement, sur une illustre inconnue, finalement?
Oui. Alors, je l'ai vraiment suivi. J'ai fait une espèce de travail d'enquête policière du berceau à la tombe. Alors, pour l'enfance, j'avais les archives de la Lozère, qui, fort heureusement, ont été numérisées. Donc, on retrouve les actes de naissance et de mariage. Et on lit beaucoup de choses dans...
Ah oui, dans ces actes, il y a de l'information.
Oui. Oui, c'est comme ça que j'ai constaté que, par exemple, ses parents, la famille Ginès, c'est le nom de son père, étaient certes des paysans, mais ils étaient propriétaires. Ce qui n'avait rien à voir comme niveau de vie avec un journalier. Ils avaient une ferme plus un moulin, plusieurs hectares, ils employaient des ouvriers agricoles, enfin ils tenaient le haut du pavé en quelque sorte. Mmh. Et j'ai découvert que son père avait fait une mésalliance, puisqu'il avait il avait épousé une femme d'un milieu presque misérable, dont la mère ne savait ni lire ni écrire, elle n'a pas pu signer l'acte de mariage.
Ah oui.
Et ses parents à lui avaient donné leur consentement par écrit, mais ils n'étaient pas présents au mariage.
D'accord. Alors, du coup, on a les actes officiels, on va dire, mais il y a aussi tout ce qu'on perçoit. Il y a l'école, la scolarité, peut-être, des,
oui,
choses à récupérer,
oui,
là-dedans. Alors, je ne sais pas, oui, comment ça se passait à l'époque, et en Lozère en particulier, mais qu'est-ce qu'on attrape à travers ces éléments-là? Parce qu'il faut interpréter quand même ces actes officiels. Il ne suffit pas de lire l'acte officiel,
oui, bien sûr,
pour en avoir,
oui,
l'histoire.
Alors, il y avait aussi ce qu'elle raconte. Dans son livre, elle parle très peu de son enfant. Mais j'ai écouté toutes les bandes, parce que quand elle a écrit ses mémoires, elle les a écrites d'après des interviews faites par Georges Belmont. Et j'ai découvert que, en 2009, au moment des grandes traversées, quand France Culture a fait écouter quelques extraits de ses enregistrements, qu'ils étaient tous conservés à la Bibliothèque Nationale. Il y en a 45 heures.
Ah oui.
Oui, 45 heures. Et dans ses entretiens, elle raconte des tas de choses qu'elle ne dit pas dans son livre. Donc, elle parle beaucoup de son enfance. Et elle raconte voilà, comment étaient ses parents, sa mère qui était une femme merveilleuse, qui l'a élevée un peu comme une demoiselle avec sa sœur. Elles étaient élevées sans mettre la main à la pâte. Et puis, alors elle raconte qu'elle était à l'école du village et qu'ensuite elle a passé un an comme pensionnaire à La Canour. Alors je suis allée sur place, bien sûr, parce que moi j'avais besoin de sentir les lieux.
Et puis, pour le coup, c'est beau La Canour. Hein.
Ah, c'est magnifique. Ah,
c'est magnifique.
C'est
oui.
Très, très beau. Et puis alors ça m'a permis aussi de rencontrer des gens qu'il avait connus, mais à la fin de sa vie. Donc j'ai vraiment eu les deux
parties. Oui.
J'ai rencontré des gens, une jeune femme à l'époque, mais qu'il avait très bien parce qu'elle revenait en vacances chaque été. Donc vraiment, j'ai eu la céleste du début et de la céleste de la fin, qui, quand elle est revenue à la fin de sa vie, qu'elle passait ses vacances à Auxilia, qui a été très mal vue.
Ah oui.
Certains l'appelaient la pute de Proust. On prétendait qu'elle était très riche parce que Proust lui avait donné sa fortune. Enfin, parce qu'elle était plus de...
Voilà, elle avait été transformée de toute façon. Voilà, j'imagine qu'il y a eu ce qu'on appellerait une ascension intellectuelle, une ascension alors, sociale, oui, à une période difficile à conserver après, mais
oui,
en tout cas,
oui.
C'est ce qu'on appellerait de l'ascension oui, intellectuelle voilà. De vie, quoi, tout simplement.
Oui, donc elle était, les gens la regardaient avec méfiance. Elle était partie ailleurs, on ne savait pas trop ce qu'elle est. Elle vivait dans un milieu avec un homosexuel, etc. Bon, et puis alors j'ai eu la chance de trouver un fonds d'archives merveilleux qui m'a permis de me documenter sur sa vie après Marcel Proust, parce que je fais. Comme j'avais eu le prix Céleste Albaret pour la comtesse Grécule, je fais partie du jury et je ne parlais à personne de mon projet. Et à déjeuner de délibération du jury, eh bien, Jacques Leterte, le patron des hôtels Swan, la conversation est venue à tomber sur Céleste. Et il m'a dit, j'ai quelques petites choses que j'ai rachetées dans une vente. Mais entendu,
il n'en fallait pas plus pour...
malgré le confinement. Et il y avait deux cartons bourrés de correspondance, la correspondance qu'elle avait reçue entre la mort de Proust et sa propre mort, avec des photos, etc. Ce qui fait que j'ai découvert des tas de détails sur ce qu'avait été sa vie. Et puis alors là aussi, j'ai fouillé dans les archives. J'ai trouvé des livres d'une américaine, Menaker, ce qu'il avait très très bien connu à l'époque de la rue des Canettes, et j'ai pu reconstituer sa vie vraiment dans les détails. Mais elle a mené rue des Canettes, elle tenait avec son mari un hôtel qui est devenu l'hôtel de la Perle, qui est un hôtel très très chic maintenant, mais qui était une pension de famille misérable. On louait des chambres au mois, alors j'ai même retrouvé les recensements de l'époque avec les noms des gens qui habitaient, c'était des ouvriers qui venaient du monde entier, d'Europe de l'Est, etc. Elle vivait dans une pièce sans fenêtre.
On en a déjà dit beaucoup, mais alors il y en a encore, j'imagine, plus. Et puis bien entendu, tout un tas d'éléments. On voit quand même qu'à travers vos recherches, vos livres, en fait, vous intéressez beaucoup aussi aux femmes de l'histoire.
Oui, c'est
en
vrai.
En particulier.
Oui, le livre qui a précédé juste celui-ci, ça raconte aussi l'histoire d'un homme quand même, et de sa femme. Enfin, bon, Monique Caslan. Mais c'est vraiment... Ma première biographie historique, c'était sur la duchesse de Berry, la belle-fille de Charles X, donc qui a été assez maltraitée par les historiens, qui était une femme de caractère aussi. Ensuite, la comtesse Grécule. La comtesse Grécule qui a largement inspiré Proust, mais qui a été injustement oubliée dans l'ombre des Guermantes, parce qu'elle a fait énormément de choses, notamment elle a été une grande mécène pour les musiciens de son temps. Et un ami m'a dit un jour, au fond, dans tes livres, tu rends justice, tu cherches à rendre justice aux gens. Et c'est vrai, sans en avoir conscience, c'est un peu ce que je fais.
Alors, sans avoir confiance, ou c'est s'intéresser aussi sur des pans de l'histoire méconnus aussi. Alors, c'est vrai que souvent, c'était les femmes qui étaient dans l'ombre de l'histoire, ou en tout cas, des grands hommes, ceux qu'on a gardés ensuite dans l'histoire collective, en fait. Il y avait souvent des femmes derrière.
Pas des femmes,
d'ailleurs, il y avait tout un tas de monde, mais les femmes étaient souvent oubliées quand même.
Oui, alors surtout au 19e siècle. Les femmes au 19e siècle, c'était quand même... Ben, on vivait encore sous le régime du code Napoléon. Hein. Civilement, elles avaient à peu près les mêmes droits que les... Enfin, exactement, d'ailleurs, le même droit que les enfants ou les aliénés. C'était, voilà, elles passaient de la tutelle de leur mari aux tutelles. Et quand on parle de la comtesse Grefful, par exemple, qui avait épousé un homme fort riche, mais qui elle-même n'avait aucune fortune, et les femmes de son milieu à l'époque, c'était la haute aristocratie parisienne, la seule activité qui était admise pour elle, c'était les bonnes œuvres. Eh bien, elle a réussi à rentrer dans cette brèche pour faire un travail extraordinaire de mécène musical, et elle a lancé tous les ballets russes et tous les grands musiciens de son époque. Alors, bon, Céleste, c'est une histoire complètement différente. Mais c'est vrai que j'aime essayer de creuser les destins oubliés ou les gens qu'on croit connaître et qu'on connaît pas vraiment.
En tout cas, à découvrir et tout est dit dans le titre, c'est à la recherche de Céleste Albaret.
Oui.
Voilà, disponible aujourd'hui sur le salon du livre. Et puis, qui a le prix Geneviève Moll, décerné par le festival, justement, du livre de Verneuil d'Avre Éditon. On aurait pu en discuter des heures, parce que dès qu'on touche à l'histoire, en fait,
sur le bouton, vous ne pouvez plus m'arrêter. Hein.
Mais oui, puis moi j'écoute, hein, parce que c'est passionnant, en fait, ces morceaux d'histoire. Puis vous les racontez bien aussi, en plus, ces morceaux d'histoire. On invite de toute façon les auditeurs à se rapprocher notamment à la recherche de Céleste Albaret, mais bien d'autres. Vous évoquiez un instant la comtesse de
Grefful. Oui.
Tout à fait. Il y avait aussi
Céline. Pour le plaisir et pour le pire, c'est l'histoire de Bonnie et de sa femme américaine. Alors elle, effectivement, bien qu'elle soit une femme, j'ai pas de tendresse particulière pour elle, mais voilà. Et puis je voulais dire que je suis très heureuse d'avoir le prix Geneviève Moll. Ça vraiment, ça me fait un immense plaisir. J'avais failli l'avoir pour la comtesse Grefful, et j'avais eu un prix spécial du jury, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Et j'en suis.
Oui, sachant que le prix Geneviève Moll, c'est un prix des biographies. Tout de même, et
voilà,
comme je disais tout à l'heure, et en fait, ce que je retrouve, et finalement je vais faire ma boucle du début où je disais du roman biographique, c'est qu'en fait, on a beau dire que c'est déjà, on a l'impression de rentrer dans une histoire. Moi, c'est ce côté roman. Alors,
oui.
Dans le roman, il y a l'invention en fait, hein, bien souvent, et c'est pour ça que je précisais biographique, mais c'est qu'il y a la sensation de vivre une aventure en fait.
Et c'est ce que j'ai dit
dans l'histoire.
C'est pas parce qu'on raconte une histoire vraie qu'on doit ennuyer les gens. Tout est documenté, sourcé, c'est un travail de fourmis, mais en même temps, je veux que ça se lise comme un roman. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Mais un roman vrai dans lequel je n'ai pas d'imagination, donc je ne peux rien apprendre.
Très bien, ça tombe bien. Du coup, ça fait de belles biographies. Merci beaucoup à vous, Laure Irlin, d'être passée par nos micros.
Merci.
Et je rappelle, à découvrir notamment à la recherche de Céleste Albaret aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Nous, ça nous amène sur la fin de cette toute première partie. Bien entendu, nous reviendrons au micro parce que bien d'autres auteurs, illustrateurs, il y a bien tout un tas d'autres choses à vivre sur ce salon du livre de Verneuil d'Avre Éditon. On vous invite à nous y rejoindre. Allez, bien, c'est à l'espace Saint-Laurent. I'm going to go to the next one.